Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons Loom, Ninjakun, Gunsmoke, Spike, Space Gun et un dossier sur la Neo Geo MVS. Bienvenue sur Rétrovision. Après avoir frappé un grand coup avec Zack McCracken et Maniac Mansion, Lucasfilm Games était attendu au tournant et c'est quelques mois avant Monkey Island que Loom vit le jour en 1990. Ici, la magie tient une grande importance tant dans les décors que dans l'interface, très intuitive même aujourd'hui. Vous êtes Bobbin, 17 ans, le plus jeune membre de la guilde des tisserands. Après que votre mère fut changée en œuf sous vos yeux par les anciens, à leur tour transformé en cygne, vous vous retrouvez seul dans cet endroit que vous avez toujours connu. Vous allez devoir partir à la rencontre des autres guildes sur les îles avoisinantes à la recherche des cygnes et de la vérité sur vos origines. Sorti en 1990 en 16 couleurs avec une piste son d'époque, Loom est ressorti quelques années plus tard sur FM Towns en 256 couleurs avec des pistes CD. Le jeu était déjà beau à l'époque, mais il est à présent sublime avec des couleurs vives, des dégradés, bref, même aujourd'hui, c'est une véritable claque. Quant à la musique, issue de l'album Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, les pistes CD en font ressortir toute la grandeur et l'émotion. C'était déjà une chance d'avoir un jeu bénéficiant d'une bande-son inspirée d'un auteur aussi important, mais en plus, dans cette qualité, c'est un émerveillement pour les oreilles. Une grande partie de l'originalité se trouve d'ailleurs cependant au niveau de l'interface. Point de verbe ou d'icône. Ici, votre seul moyen d'interagir avec le décor est une quenouille, ou un bâton magique si vous préférez. En avançant dans l'aventure et en regardant les objets, vous allez entendre des notes de musique, des trames. Chaque trame est composée de 4 notes de musique, et dès le début, vous aurez 3 notes sur votre quenouille. Mais bien entendu, au fil de l'aventure, vous gagnerez d'autres notes, vous permettant ainsi de jouer davantage de trames. Par exemple, il en existe une pour ouvrir, et si elle est composée à l'envers, elle pourra servir à fermer. De même, il y en a pour voir dans l'obscurité, transformer de la paille en or, ou encore réveiller quelqu'un. Une interface donc vraiment très originale et intuitive, puisqu'on commence avec seulement 3 notes, ce qui facilite la prise en main, pour attaquer vers la fin du jeu des trames bien plus complexes, mais leur utilisation est toujours aussi simple d'emploi, puisque chaque nouvelle séquence entendue s'affiche en bas de l'écran, du type ECED. Il ne vous reste plus qu'à noter celles-ci, ainsi que leurs effets, sur un papier, pour les composer ensuite à votre guise grâce à la quenouille, où, bien entendu, chaque note est représentée par sa lettre. Loom n'est pas le plus célèbre des Lucasfilm Games, mais il est l'un des plus innovants et les plus aboutis. Aucun réel défaut ne peut être souligné. On profite d'un bon scénario, de graphismes et de musique sublimes, ainsi que d'une interface originale et d'une difficulté bien dosée. On ne peut que vous suggérer de vous plonger tête la première dans cette quête magique et mystique, dépaysement assuré. Portage d'un jeu d'arcade éponyme étant lui-même la suite d'un titre publié en 1984, Ninjakun ne propose pas de réel scénario. Le petit ninja que l'on incarne devra défaire de nombreux ennemis tout au long de la trentaine de niveaux proposés. Chaque niveau tente une présentation différente du niveau précédent avec un défilement horizontal ou vertical ou un challenge distinct. à savoir atteindre la sortie du stage ou éliminer tous les ennemis, le tout dans un laps de temps limité. Pour se défendre, notre petit ninja peut lancer des shurikens. Par la suite, il pourra acquérir de nouvelles armes de jet, mais celles-ci auront toute une portée limitée. Il peut également sauter sur ses ennemis pour les étourdir un court instant et inversement. Il est intéressant de noter que, contrairement à une grande majorité de jeux, le contact direct avec un ennemi ne blessera pas le héros. Seuls les projectiles peuvent vous atteindre. Comme tout ninja qui se respecte, celui-ci pourra également grimper sur des parois verticales. Un exercice qui demandera un entraînement de la part du joueur pour être maîtrisé. En éliminant certains ennemis, notre personnage pourra récupérer des rouleaux, ceux-ci servant à le protéger. Avec 10 rouleaux, vous pourrez survivre à une attaque adverse. Il est préférable de les accumuler pour vous donner un maximum de chances de survie. Les rouleaux qu'il vous restera à la fin de chaque niveau seront comptés dans votre score. De temps en temps, vous rencontrerez un ennemi plus coriace que les autres. Ces adversaires, qui ne sont pas vraiment des boss, doivent être éradiqués d'une manière bien précise. À vous donc d'observer leurs déplacements et leurs attaques pour élaborer une stratégie afin de vous en débarrasser. Développé originellement par le studio UPL en arcade et porté sur Famicom par Jaleco, la version MSX2 est l'œuvre de HAL Laboratory, essentiellement connue pour l'élaboration de la saga Kirby. Ce portage est très fidèle à l'original. Le héros, bien que minuscule, possède de grands yeux qui lui permettent d'être très expressif, tout comme ses ennemis. Bien que simpliste dans son approche, le titre demandera de la dextérité au joueur. Le soft est globalement assez difficile, certains ennemis étant prompts à éviter vos attaques et vous compliquer la vie. Ajoutez à cela une maniabilité pas toujours évidente et un scrolling saccadé, et vous comprendrez que si Ninja-kun n'est pas un mauvais jeu, celui-ci s'adresse avant tout à des joueurs d'un certain niveau de compétence. Gunsmoke est un shooter vertical pédestre à défilement automatique développé et édité par Capcom en 1985 sur arcade. Ce titre, ayant pour thème le Far West américain, n'aurait apparemment aucun lien avec la série TV du même nom produite à partir de l'année 1955, narrant les péripéties du Marshal Matt Dillon à Dodge City dans le Kansas après la fameuse guerre de sécession. Gunsmoke, starring James Arness as Matt Dillon. Vous dirigez un chasseur de primes à la poursuite de vicieux criminels dont la tête est mise à prix contre une grosse somme d'argent. Cette borne dispose d'un panneau de contrôle un peu particulier, mais très facile à prendre en main. En effet, l'orientation des tirs est définie selon la pression sur les trois boutons disponibles positionnés triangulairement, gauche, milieu et droite. Chaque bouton correspond donc à une direction de tir, mais il est possible de combiner les touches pour obtenir un angle plus large, plus excentré, voire même dans deux directions opposées. Par contre, le gros inconvénient de ce jeu est sa difficulté monstrueuse, même en configurant la borne en mode facile. Les balles des ennemis arrivent de partout, super rapidement, et elles sont parfois difficiles à repérer à cause de leur taille minuscule. Et les quelques bonus contenus dans les tonneaux n'y changeront pas grand-chose. Parmi eux, on peut récolter un fusil ayant une portée plus longue ainsi qu'une plus grande puissance. Le cheval, quant à lui, permet d'aller un peu plus vite et de pouvoir encaisser au moins 3 coups. Il y a aussi les paires de bottes pour se déplacer un peu plus rapidement. Mais pour les récupérer, il faudra tirer plusieurs fois sur des tonneaux tout en évitant bien évidemment d'être touché par les ennemis. Graphiquement, Gunsmoke tient la route. On reconnaît aisément tous les clichés du Grand Ouest américain avec ses teintes boisées couleur marron, ses saloons, cactus et autres chemins de fer. Malgré tout, Gunsmoke est un shooter sympathique et l'ambiance western chasseur de primes y est fort bien retranscrite graphiquement. Dommage que sa difficulté soit aussi élevée, surtout dès le premier niveau. Assurément un des jeux les plus difficiles qui est réalisé Capcom à l'époque. Décidément, il ne fait pas bon être amoureux dans l'univers du jeu vidéo, car on remarque souvent que cela appelle à un enlèvement de sa chair dulcinée. Spike, le héros de ce jeu, en fait, comme beaucoup d'autres, l'amère expérience. Sa tendre Molly a été enlevée par son éternel ennemi, Spud. Ce pitch, usé jusqu'à la corde, pose les bases de ce jeu de plateforme qui, à l'instar du jeu Rock'n'Roll, chroniqué dans l'émission précédente, reprend les mécaniques de jeu instaurées par l'ultra-classique Donkey Kong. Ici, Spike devra monter sur deux niveaux de plateforme pour ensuite atteindre la cage où est enfermée Molly. Pour cela, le joueur a la possibilité de placer une échelle selon un ordre défini par le programme pour que le personnage puisse atteindre le niveau supérieur. Néanmoins, les plateformes étant en perpétuel mouvement, un minimum de synchronisation est nécessaire. Sur son trajet, Spike devra récupérer la clé de la cage, condition nécessaire à la libération de Molly. Une fois le deuxième étage atteint, vous devrez placer la cage face à Spike pour qu'il puisse sauter dedans et libérer sa petite amie. Malheureusement, Spud interviendra toujours au dernier moment pour emmener la douce dans un autre niveau. La difficulté augmentera crescendo avec l'apparition d'ennemis à chaque fois plus nombreux que Spike pourra éliminer à coups de pied. Les coups pieds droit et gauche étant alloués à un bouton distinct de la manette, une période d'adaptation sera nécessaire au joueur pour maîtriser ses coups, ainsi que les sauts et le déplacement de l'échelle et de la cage sans s'en mêler les boutons. Jouable à deux alternativement, comme de très nombreux jeux de cette époque, le titre dispose d'une ambiance assez sympathique et est très plaisant à jouer, bien qu'étant assez limité dans son déroulement et dans son challenge. Fait assez étonnant pour être souligné, et vous l'aurez sûrement remarqué dès le début de cette chronique, le jeu dispose de synthèse vocale, chose encore très rare à l'époque. Alors qu'il revenait vers la Terre après avoir achevé sa mission, l'équipage de l'opération Thunderbolt est attaqué par une forme de vie extraterrestre. Il ne tient qu'à vous d'éradiquer la menace et de récupérer les survivants grâce à votre arme surpuissante, le Space Gun. Ce rail shooter de Taito ne cherche pas à s'embarrasser d'un scénario complexe. Ici, tout est bon pour désinguer des monstres hideux par paquet de 12. D'abord publié en arcade en 1990, le jeu se verra porté sur les micro-ordinateurs de l'époque, Amiga, Atari ST, CPC, Commodore 64 et ZX Spectrum. Sur console, la seule machine qui en accueillit une adaptation fut la Master System en 1992, et uniquement pour le marché européen. Utilisant le Light Phaser, le principe du jeu est tout simplement de flinguer tout extraterrestre qui apparaîtra à l'écran selon un scrolling prédéfini. Attention toutefois à ne pas tirer sur tout et n'importe quoi, car certains survivants de l'équipage se précipiteront vers vous pour être secourus. Méfiance néanmoins, car il se peut qu'il s'agisse en réalité d'extraterrestres grimés pour vous piéger. Durant votre périple, vous pourrez amasser des munitions spéciales aux effets divers. Enflammées, gelées, explosées, etc. Ces munitions, étant en quantité limitée, gardez-les bien au chaud pour les utiliser judicieusement quand arrivera le moment du face-à-face avec un boss. L'arme de base, elle, possède des munitions illimitées, par contre, celle-ci a une fâcheuse tendance à surchauffer. De courtes pauses seront donc nécessaires entre chaque rafale. Assurez-vous de ne pas être débordé par les invasions aliens. De temps à autre, vous aurez à choisir la direction à prendre. Cela n'influencera nullement le déroulement du jeu. Space Gun est un jeu à la réalisation soignée. Les graphismes sont réussis, fins et colorés, et la visée au pistolet ne pose pas de problème. Néanmoins, le titre peine à convaincre et à passionner le joueur, à cause d'un rythme assez lent, tant dans son déroulement que son ambiance sonore, très limitée en musique et assez soporifique. Sentiment renforcé par une linéarité de l'action. À aucun moment, le jeu tente de se renouveler et les niveaux se déroulent inexorablement de la même manière. Toutefois, sur ce dernier point, c'est un défaut plus inhérent au genre qu'au soft lui-même. Enfin, il faut admettre que le titre ne propose pas une difficulté élevée. Une grosse demi-heure suffira pour le boucler, et ce, même s'il s'agit de votre première partie. Une chose reste sûre, dans l'espace, on n'est pas prêt de vous entendre crier. Il y a de ça un quart de siècle, un éditeur de jeux d'arcade faisait sensation en mettant sur le marché un système qui allait devenir culte, le Multi-Video System. C'est très exactement le 26 avril 1990 que la firme SNK mit en vente cette nouvelle carte d'arcade dont le principal atout était de disposer de cartouches interchangeables, comme les consoles de salon. Ceci afin que les exploitants de Game Center n'aient pas à racheter la totalité du système pour chaque nouveau jeu. Une technique déjà employée quelques années auparavant par Data East et son Deco Cassette System que nous avons déjà évoqué dans une précédente émission. The future is now SNK. Mais ici, SNK pousse le concept plus loin. Décliné en plusieurs versions, le MVS pouvait accueillir dans une borne 1, 2, 4 ou 6 cartouches sur une même carte mère, d'où son nom, Multi-Video System. Mais le MVS impressionnait surtout de par la qualité de ses jeux, sprites énormes, effets de zoom et autres distorsions. Les jeux étaient alors de véritables claques visuelles, ce qui était assez étonnant, sachant qu'il s'agissait là d'un système 16 bits dont le processeur était un Motorola 68000, le même équipant la Mega Drive dans une résolution de 320 par 224 sur les deux machines. L'astuce étant que ce fameux 68000 tournait à une fréquence de 12 MHz, soit 4 fois plus vite que la console de Sega. Mais celui-ci est également épaulé par un coprocesseur 8 bits Zilog Z80, ce coprocesseur prenant également en charge la partie sonore. Ainsi, SNK vendait de manière un peu fallacieuse son système comme étant une architecture 24 bits, ainsi que des jeux pouvant stocker jusqu'à 330 mégabits de données, nombre énorme en 1990. L'avenir nous montrera que non seulement ce nombre n'était pas galvaudé, mais qu'il avait même été plus que doublé grâce à la technique du bank switching, technique déjà utilisée avec les jeunesses pour outrepasser les limitations mémoire des machines.
Shinzuru mono wa onoga yaiban nomi. 球。ネオジオサムライスピリッツ。
SNK。Parallèlement à la sortie du MVS, SNK mit sur le marché une version console de salon nommée AES pour Advanced Entertainment System. D'abord proposée à la location lors de sa première année d'exploitation, l'AES fut commercialisée par la suite pour permettre aux joueurs les plus fortunés de jouer chez eux aux mêmes jeux que ceux des salles d'arcade. Le MVS fut également présent dans les hôtels. À l'instar de Nintendo avec sa Super Famicom Box, la Neo Geo Deck était un système MVS autonome fonctionnant avec un monnayeur. Présent sur l'AES et certains modèles de la carte mère MVS, le port carte mémoire permettait de commencer une partie sur l'un des systèmes, puis de la continuer sur un autre. D'ailleurs, la Neo Geo fut la première console à utiliser un système de sauvegarde sur carte, méthode qui se démocratisera largement à l'ère des consoles 32 bits. Fort de son succès, grâce notamment à son catalogue très fourni de titres prestigieux, essentiellement dans le domaine de la baston, et ce, malgré une concurrence très forte, en particulier venant de l'éternel rival Capcom, le MVS reste un système à la longévité spectaculaire. 14 années de bons et loyaux services et plus de 150 titres dans sa ludothèque. Devenues bien moins onéreuses que leur équivalent sur AES, les cartouches MVS sont désormais plébiscitées par les collectionneurs qui n'ont jamais pu réaliser le rêve de posséder celle qui restera à jamais la Rolls des consoles, même après avoir soufflé ses 25 bougies. Thank you.